わかりました。私東京電力。
Je m'appelle Sito Segi. Je suis le directeur du département de la communication de TEPCO Tokyo Electric Power. Tout d'abord, nous tenons à nous excuser pour l'accident qui s'est passé et nous présentons nos excuses aux populations de la région et à toutes les populations du monde.
Bonjour, c'était il y a un an, jour pour jour, à 14h46, heure locale, 4h46 du matin, temps universel, un tremblement de terre d'une magnitude de 8,9, donc très violent, se produit à 80 km à l'est du Japon. Les réacteurs de la centrale électrique de Fukushima s'arrêtent, les générateurs prennent le relais, mais 50 minutes plus tard, une vague de 14 mètres de haut déferle sur la côte et déborde les murets de protection de la centrale. C'est le début d'une des plus grandes catastrophes nucléaires de notre histoire. Un an après, quelle est la situation sur place? Quelles leçons les industriels du nucléaire en ont-ils tiré? L'industrie du nucléaire, justement, a-t-elle encore un avenir? Pour en parler avec nous, deux invités. Thierry Charles, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général adjoint de l'IRSN, c'est l'Institut français de radioprotection et de sûreté nucléaire, et vous êtes chargé de la sûreté des installations et des systèmes nucléaires. En face de vous, Bernard Laponge, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes polytechnicien, docteur en sciences physiques des réacteurs nucléaire, expert en politique et maîtrise de l'énergie et membre de l'association Global Chance. Alors messieurs, tout d'abord, je voulais vous demander ce que vous inspire les propos du directeur de la communication de TEPCO, que l'on vient d'entendre, qui a adressé ses excuses au monde entier, Thierry Charles.
Bien, tout d'abord, je pense qu'au Japon, c'est un peu culturel, ce type de réaction, puisque en général, les Japonais n'aiment pas reconnaître les erreurs par culture, et lorsqu'il y a un événement qui arrive, notamment quand il est très grave comme ceci, ils se sentent par définition en faute, et il faut qu'ils se repentent en quelque sorte. Donc c'est essentiellement une pratique culturelle qui est en vigueur dans ce pays.
Bernard Laponge.
Je pense qu'il n'y a pas qu'au Japon que les responsables n'aiment pas faire des excuses. D'une certaine façon, formellement, c'est pas si mal. Ce qui est dommage, c'est que ça soit le responsable de la communication qu'il fasse et pas le grand directeur. Mais en France, par exemple, je pense qu'il est très rare qu'un patron de grande entreprise dans laquelle il y a eu un accident présente ses excuses.
Donc vous saluez plutôt la démarche?
Je ne sais pas, parce qu'elle a aussi un élément culturel et puis il faut voir ce qui se passe après, parce que si c'est une façon de se dédouaner, c'est pas bien. Mais ça serait pas mal, de temps en temps, que des responsables politiques ou dirigeants d'entreprise aient l'humilité de reconnaître qu'ils s'étaient trompés.
Alors, le séisme et le tsunami ont causé la mort de près de 16 000 personnes. Hein. Plus de 3 000 personnes sont toujours portées disparues. Quant à l'accident nucléaire, il n'a officiellement fait aucun mort pour l'instant. Mais 12 municipalités du département de Fukushima, situées dans une zone de 20 km autour de la centrale, ont été évacuées. Plus de 100 000 habitants ont été déplacés. Mais juste au bord de cette zone, comment vivre? Les habitants ont cruellement manqué d'informations. Ils se sont donc organisés comme ces mères de famille regroupées au sein d'une association présidée par Sachiko Sato, rencontrée par Arnaud Jou.
3月の末に私たち
fin mars, nous avons récupéré des compteurs GGR et nous sommes allés prendre des mesures dans les écoles. Et là, nous avons remarqué qu'il y avait des valeurs radioactives importantes. Alors nous sommes allés à la préfecture pour demander qu'on fasse sortir les enfants des écoles. Nous avons reçu plein de messages de mamans à ce moment-là et nous avons créé cette association pour protéger les enfants.
Quelles valeurs, justement, par exemple, les valeurs
importantes? J'ai trouvé des valeurs de 68 microsieverts et un collègue a même trouvé jusqu'à 108 microsieverts par heure. Je me sentais tellement coupable d'envoyer les enfants à l'école, je me sentais triste et je n'arrêtais pas de pleurer. Et quand j'ai su qu'il y avait plein d'autres mamans comme moi, ça ne m'a pas vraiment rassurée, mais cela nous a donné l'élan pour dire tout haut ce que nous pensions malgré parfois le poids des familles.
Qu'est-ce que l'association fait pour répondre aux femmes?
Il y a 4 points. D'abord, protéger les enfants. Ensuite, prendre des mesures de radioactivité. Informer, bien sûr, les mamans et surtout, en priorité, permettre l'évacuation.
Pour finir, comment elle voit l'avenir?
Moi, ce que j'ai pensé après l'accident, c'est que durant toute la vie que nous avions avant, nous étions dans l'erreur. Et puis, j'aimerais que tout le monde réfléchisse à ça partout dans le monde, parce que il va falloir trouver en nous les solutions. Et c'est comme ça que l'on avancera vers l'espoir, vers le futur. Être responsable, c'est vivre pour le futur. Qui vont monter dans le monde.
Alors, ce qui est très difficile à gérer pour la population, hein, c'est que la vie quotidienne reprend ses droits. Par exemple, faut-il envoyer les enfants à l'école ? Oui, répondent les parents, même s'ils sont avides d'informations pour comprendre les risques qu'encourent leurs enfants, comme le prouve ce reportage d'Arnaud Jouve dans l'école maternelle de Minamosama, qui se situe à moins de 20 km de la centrale.
On vient d'arriver à Minamisoma, à la maternelle Kashima. Le professeur de l'université de Tokyo, Komada, est en train de se faire recevoir par les personnes de la maternelle. Le professeur de la maternelle parlait des déchets qui ont regroupé venant de l'école primaire qui est juste en face. Et là où ils ont mesuré la radioactivité, ils ont vu qu'il y avait 80 microsieverts par heure.
Pendant la réunion, l'adjoint du professeur prend des mesures sur le toit de l'école. On est à plus de 6,15 microsieverts heure. Et sur les gouttières qui longent les salles où jouent les enfants, on est encore à 4,80. Avant l'accident, on était à 0,10. Je demande à une maman qui vient chercher sa petite fille à la maternelle ce qu'elle pense de ces mesures.
C'est assez angoissant, mais comment je peux dire ? Tant que je suis là, je suis obligée de continuer la vie ici et je compte sur la mairie et le personnel de la maternelle. Tant qu'on est là, on ne peut que vivre comme ça ici. J'ai des informations tous les jours de la mairie, sur Internet, et de temps en temps, j'emprunte le compteur de mon grand frère pour faire moi-même mes mesures.
La réunion se termine, toutes les institutrices remercient le professeur. La directrice de la maternelle, Kuniko Izumi, m'explique pourquoi ils ont réouvert la maternelle alors que le site était encore très contaminé.
Quand il y a eu l'évacuation de la zone des 20 km, avec les enseignants, on est resté pour aider, distribuer des repas. Et quand les gens sont venus pour nettoyer les dégâts du tsunami, il y avait des enfants et il fallait s'en occuper. Alors en juin, on a rouvert la maternelle. En août, on a commencé à nettoyer les zones les plus contaminées de l'école. Et aujourd'hui, le professeur nous a dit qu'il va falloir recommencer une fois, deux fois, trois fois et qu'il va y avoir encore beaucoup d'étapes pour se décontaminer.
Voilà à quoi ressemble la vie au quotidien après un accident nucléaire. Ce reportage a été fait 6 mois après la catastrophe, mais un an plus tard, la situation n'a pas évolué car les Japonais ont toujours peur de ce qu'ils appellent l'ennemi invisible. Alors c'est vrai que Thierry Charles, on entend parler dans ce reportage de microsieverts, on parle aussi de becquerel, de CSP. En gros, les Japonais résument avec cette expression ennemi invisible la radioactivité. C'est ça qui fait peur, c'est que ça ne se voit pas.
Oui, c'est exact. Ça ne se voit pas, ça se mesure par contre. Et il est clair que, à suite d'un accident, c'est le rôle du gouvernement déjà d'identifier les zones dans lesquelles il faut éloigner les populations, le principe pour limiter la dosimétrie qui sont prises par les gens, et ensuite, pour les zones dans lesquelles les personnes peuvent rester, de prendre des mesures qui peuvent être notamment de ne pas consommer les aliments de la zone, puisqu'il y a eu des retombées qui peuvent contaminer les aliments, et puis surtout également de traiter avec une certaine priorité, les différentes zones dans lesquelles il y a encore une activité excessive, je dirais. Exemple, ça a été fait au Japon, alors je ne connais pas tout le détail, mais les écoles étaient des zones préférentielles dans lesquelles il a été mis en œuvre des mesures, notamment de passage de karcher sur les bâtiments pour éliminer autant que possible la contamination, de couverture de la cour, finalement, de traitement de la cour pour limiter la contamination résiduelle en surface et donc limiter les doses que prendraient les enfants. Donc une reconquête de territoire, c'est long. Mais ça suppose qu'à la base, il y ait eu une bonne cartographie, donc le Japon en a fait une. Quel niveau de détail ils ont, ça évolue au fil du temps. Et en général, ça nécessite également qu'il y ait un dialogue important entre les pouvoirs publics et les représentants locaux pour justement définir au cas par cas et faire comprendre également les risques qu'il y a et pour quelles raisons on met en œuvre telle mesure. Effectivement, toutes ces actions de reconquête, c'est très lourd et c'est très long.
Alors Bernard Laponche, on entendait quand même des taux de radioactivité assez importants là dans ces reportages. Bah,
d'une part, c'est assez important, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a deux phénomènes. Il y a l'irradiation. Et par exemple, dans les écoles, si on décontamine, l'irradiation à l'intérieur de l'école sera plus faible. Et on peut avoir comme ça des zones des locaux décontaminés ou des zones décontaminées.
C'est ce qui fait d'ailleurs qu'au Japon aujourd'hui, les enfants ne jouent plus dans les cours d'école ou dans les parcs, voilà. Ils restent confinés à l'intérieur
donc
des écoles.
Donc ça, c'est l'irradiation. C'est déjà un très gros problème, comme on vient de le voir. Mais ce qui est plus grave, c'est la contamination, c'est-à-dire le fait que les particules radioactives se sont déposées sur des zones très importantes, forestières ou agricoles, et que là, on ne peut pas décontaminer une forêt. Donc la forêt, il y a des champignons, les terres agricoles, il y a du riz, il y a des légumes, etc. Et les gens qui vivront dans cette zone, c'est quand même très difficile, enfin c'est presque impossible de leur dire que de toute façon, tout ce qu'ils peuvent cultiver ou ce qu'ils avaient l'habitude de cueillir, il ne faut pas le faire. Et donc, ils seront obligés d'acheter, donc si vous voulez...
D'autant plus que Fukushima était une région très agricole.
Très agricole.
Au Japon, notamment, ils faisaient de l'agriculture bio.
Ça, c'est un problème majeur. Ça veut dire, en fait, des zones interdites pendant longtemps, parce que... Alors, j'espère qu'au Japon, elles seront vraiment interdites. À Tchernobyl, par exemple, il y a des millions de gens qui vivent sur des zones contaminées, mais parce qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs.
Il faut voir une chose, c'est que les rejets qui ont eu lieu... ont été très liés à la météorologie qu'il y avait au moment du rejet. En fait, c'est ce qui a rabattu au sol. Quand vous avez de la pluie, ça lave l'air, et donc ça rabat au sol la contamination, plus que s'il n'y a pas de pluie. Et donc, certains rejets, notamment sur le réacteur numéro 2, qui a conduit à plus de rejets sur les terres, en même temps, il y avait de la pluie, de la neige, et donc ça a rabattu localement fortement la contamination. Et donc, vous avez une contamination, comme on dit souvent, on appelle ça en tache de léopard, parce que à certains endroits, il y a des contaminations très élevées, vous faites un kilomètre, et un kilomètre, il y en a 10 fois moins, quoi. Donc, le point important, c'est déjà de cartographier ce genre de choses. Ce qui a été fait au Japon, donc il y a eu des mesures faites par des hélicoptères qui ont des appareils de mesure et qui vous donnent grossièrement, je dirais, une première vision de la contamination. Après, deuxièmement, il faut aller plus près sur le terrain et voir ce qu'il y a à faire localement en fonction des différentes zones. Et après, il faut prioriser. Tout à l'heure, vous avez parlé des forêts. Il est clair que les forêts ne seront pas l'enjeu du moment. Ça sera beaucoup plus tard. Dans les forêts, ça sera plutôt de dire aux gens, n'y allez pas, ne ramassez pas les champignons, évitez autant que possible d'y aller.
Alors, beaucoup plus tard, ça veut dire...
Ça dépend de la contamination qui est présente. Il faut voir
ça
que...
Ça
peut durer des dizaines d'années, hein. Parce que là, le problème de fond, quand on parle d'accident de réacteur, vous avez affaire à plusieurs types de radioéléments. À court terme, c'est l'iode. Parce que l'iode disparaît très vite, on va dire ça comme ça pour simplifier. Disparaît très vite, en l'espace de 6 mois, on n'en parle plus quasiment. Donc, c'est un enjeu immédiat majeur. Par contre, vous avez d'autres radioéléments, comme le césium, dont la diminution d'activité est lente. En gros, si vous avez 100 à l'instant T, il faut attendre 30 ans pour qu'il n'y en ait plus que 50. Donc, ça se divise par 2 tous les 30 ans. Et donc, quand vous avez une contamination élevée, la contamination des terrains va perdurer pendant des dizaines d'années.
Alors, face à l'inquiétude des populations, les autorités japonaises se veulent rassurantes. Je vous propose d'écouter les propos du professeur Sunishi Yamashita, il est vice-président de l'université de Fukushima.
Sachant que l'environnement a été contaminé, il faut bien tenir compte du rapport entre la radioactivité et la situation sanitaire. À Hiroshima et à Nagasaki, comme à Tchernobyl, il y a eu une forte contamination externe. Le cas de Fukushima est complètement différent. Ici, les gens ont peur de la radioactivité et nous essayons de leur expliquer les dangers de la radioactivité d'une manière scientifique, médicale et rationnelle. Il faut enlever les préjugés et le sentiment de victime qui est excessif. Pour le moment, il n'y a eu aucune personne qui a été atteinte par une pathologie directement imputable à la radioactivité.
Est-ce qu'il existe un seuil à partir duquel les populations exposées sont en danger?
Le risque cancérigène, c'est quand on est exposé en une fois à 100 millisieverts. Et donc, aucune personne n'a le risque d'avoir le cancer ici pour le moment. C'est pour ça que la norme de sécurité a été fixée à 20 millisieverts par le gouvernement. On n'est pas dans le cas de Hiroshima ou de Nagasaki, où les gens ont reçu plus de 100 millisieverts en un coup, et où il y a eu beaucoup de cancers. Les gens ont cette peur, il ne faut pas faire les mêmes erreurs qu'à Tchernobyl, où il y a eu beaucoup de dépressifs, d'alcooliques et de gens suicidaires. Il faut adapter ces retours d'expérience à la réalité japonaise, pour ne pas avoir les mêmes phénomènes. Le désastre de Fukushima, ça a été le séisme, le tsunami, la centrale nucléaire et l'information catastrophique.
Alors Bernard Laponche, est-ce que vous considérez là, parce que le professeur Sunishi Yamashita qui répondait à Arnaud Jouve dit justement le désastre ça a été le manque d'informations, mais vous aviez envie de réagir à ses propos.
Ces propos sont c'est une caricature, je pense qu'on est là-dessus.
Vous seriez
d'accord
tous les deux en
l'écoutant. Le problème c'est qu'on entend ça en France, de gens qui expliquent la même chose, c'est-à-dire que finalement... Fukushima, ben, il n'y a pas eu de mort tout de suite, que la radioactivité n'est pas si mauvaise que ça. Enfin, des choses très proches. Donc, plutôt que d'accuser le professeur que je ne connais pas, qui manifestement dit des bêtises, je pense que ce qui est plus grave, c'est que des gens qui sont ici et qui ne sont pas touchés par le problème de Fukushima en tant que responsables, disent très souvent la même chose, y compris par rapport à Tchernobyl. Et ça, je trouve ça inadmissible. À un moment donné, il faut accepter que cet accident est très grave, avec des conséquences importantes, et même que, c'est l'un de vos collègues que j'avais dit à une émission, que le Japon a eu de la chance.
C'est-à-dire, si ça aurait pu être pire?
Ben, si le vent allait vers le Pacifique, donc il y a eu effectivement la radioactivité dans la mer, mais si le vent allait dans l'autre sens, cette radioactivité allait sur la zone de Tokyo.
Plus de 30 millions d'habitants.
Voilà. Alors, il y a eu de la chance, donc bon, très bien, mais c'est le mot chance qui est un peu inquiétant dans cette affaire. C'est-à-dire que si le vent allait dans l'autre sens, et l'expression c'était M. Isnard, le Japon aurait été
directeur général de l'IRSN.
Non, directeur
de crise, tout à fait.
L'équipe de crise. Le Japon était coupé en deux, donc ça donne la taille de ce type de catastrophe, et je pense que là-dessus, il faut qu'entre les experts et enfin de bonne compagnie, il y ait au moins l'accord là-dessus, parce que si c'est monsieur Yamashita qui dit des choses comme ça, on peut pas l'accepter, quoi.
Alors Thierry Charles, dans le numéro de janvier du magazine interne de l'IRSN, hein, consacré aux premières leçons de l'accident, vous titrez justement « Fukushima nous enseigne qu'il faut imaginer l'inimaginable ». Donc par rapport aux propos de Bernard Laponche, est-ce que cet inimaginable ne pouvait pas être envisagé avant ?
Je vais dire deux choses. Le premier point, c'est que quand on dit que le Japon a eu de la chance, une des raisons, c'est que la question a été longtemps, quel est le comportement des piscines d'entreposage de combustible usé pour lesquelles il n'y avait pas de confinement autour. Et donc, durant l'accident, ces piscines, heureusement, fort heureusement, n'ont pas subi de dégréments trop importants, et donc, ça a permis de ne pas avoir de rejets provenant des piscines. Les rejets sont provenus des réacteurs, qui, eux, ayant un confinement, et en plus, la météorologie envoyant une bonne partie du Pacifique, ça a permis de limiter les conséquences dans l'environnement. Donc, ça, c'est un point important. Deuxième point important, c'est qu'on a fait des calculs sur la base des rejets qui sont allés sur les terres, et on s'est rendu compte qu'au-delà de la zone qui avait été évacuée, effectivement, les doses prises par les populations par l'effet direct étaient nettement en dessous de 100 millisieverts. De ce point de vue-là, c'était ce point de vue-là rassurant. Et donc, on voit bien qu'on a affaire à une contamination chronique de l'environnement qui, par contre-coup, impacte les gens qui vivent sur ces terrains-là. Donc voilà un petit peu la problématique. Pour revenir à la question que vous me posiez sur imaginer l'imaginable, le point important, on vient donc à la suite de l'accident, les pouvoirs publics français, le Premier ministre en tête, a demandé à ce qu'il y ait un réexamen en France des installations en tenant compte des enseignements de l'accident, et en fait il a demandé de réfléchir sur trois domaines. La première, c'est quelle robustesse par rapport aux agressions naturelles, séisme, inondation. Deuxième question, c'est quelle robustesse par rapport à la fourniture en courant électrique, à la fourniture en eau qui assure le refroidissement et donc la sûreté de l'installation. Et troisièmement, quelle robustesse en termes de gestion de crise s'il y avait un accident. Et donc, de ce point de vue-là, donc les exploitants français ont produit leurs analyses, l'IRSN en a fait l'expertise, et ça a conduit à quoi ? Ça a conduit à dire que globalement, la démarche de sûreté que l'on connaît actuellement, elle est saine, elle est robuste. Par contre, ça mérite de la compléter, donc c'est ce qui a été demandé, de la compléter pour tenir compte d'événements qui dépasseraient ceux pour lesquels on est dimensionné, de telle façon qu'on puisse avoir un ensemble minimal d'équipements dans les installations qui permettrait d'assurer les fonctions essentielles de sûreté et d'éviter l'accident grave.
Donc selon vous, aujourd'hui, on est dans une bonne direction en France. On va en parler juste après un bref rappel de l'actualité. Restez avec nous. On va essayer de continuer à tirer les leçons de l'accident de Fukushima un an après. Nous nous demanderons notamment si l'industrie nucléaire, justement, est remise en cause par cette catastrophe. À tout de suite.